The session will start, please.
Nous allons commencer. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Très bien. J'éteins le micro. Donc, bonjour pour les participants à distance, peut-être que c'est le soir. Bonsoir, je ne sais pas. Tijani au micro, pardon. Nous sommes à notre deuxième réunion de l'espace Moyen-Orient, puisque nous avons pour la première fois organisé ceci à Abu Dhabi, et ça a très bien fonctionné. Donc, on s'est dit qu'on allait répéter l'expérience. Et le sujet a été choisi par la communauté, donc par vous. Nous allons donc parler de la conformité des données WHOIS au RGPD. Ferzala, qui a proposé ce sujet, a en fait pris les notes pour la déclaration et vous avez maintenant cette déclaration. Vous la verrez, elle vous sera distribuée. Alors, j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue parmi nous. Bienvenue à nos intervenants. Et pour commencer, nous avons le PDG de l'ICANN avec nous, Joran Marby. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Thomas Rickert, qui présentera justement le sujet de la réunion. Et étant donné que Joran est très occupé, il n'a qu'un quart d'heure à nous concentrer. Donc, je vais lui donner tout de suite la parole après Baher. Baher qui va donc faire la présentation initiale. Baher, c'est à vous. Baher au micro. Merci, Tijani. Donc, je suis de l'équipe Engagement des parties prenantes mondiales de l'ICANN. Bienvenue à cette deuxième réunion de l'espace Moyen-Orient à Porto Rico. Cette fois-ci, je suis très heureux de voir cette pratique de cet espace, de cette réunion Moyen-Orient se poursuivre. Nous avons commencé à Abu Dhabi et je suis en particulier heureux de voir qu'il y a une telle énergie au sein du groupe stratégique du Moyen-Orient, puisque nous avons pu organiser cette séance de manière ascendante. Tout le processus commencé par Tijani, Farzana et d'autres a commencé par la décision du sujet choisi. Ensuite, l'emploi du temps a été établi, la déclaration préliminaire a été rédigée. Tout ceci a été fait de manière ascendante et multipartite. Donc, c'est tout à fait adéquat. Et bien évidemment que le sujet d'aujourd'hui est très important puisqu'il s'agit du règlement général sur la protection des données de l'Union européenne et je suis très heureux que la communauté du Moyen-Orient prête attention à ce sujet extrêmement important et que de telles discussions soient organisées à l'ICANN. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Joran Marby, président de l'ICANN. Il y aura nos micros. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici. Tout d'abord, j'aimerais vous mentionner quelque chose. Nous avons eu une séance sur le RGPD ce matin, n'est-ce pas? Et il y a eu une question de Steve à la fin du forum public. Nous allons en fait ajouter une heure pour discuter davantage de cette question du RGPD, pour répondre aux questions. Donc, c'est quelque chose que vous avez mentionné dans votre lettre et nous avons déjà eu plusieurs séances de ce type, mais nous savons que l'exercice n'est pas facile. C'est une discussion qui date d'il y a 20 ans sur le WHOIS avec des questions juridiques. Et si les gens prétendent savoir exactement ce qui va être adopté et mis en œuvre, en fait, ils leur racontent n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Alors, revenons en arrière. Il y a 6 mois, enfin un petit peu plus, il y a 8 mois, nous avons lancé le processus de réflexion sur le RGPD. Le RGPD, en fait, c'est une loi. En général, dans ce type de situation, il y a une négociation sur la mise en œuvre des politiques et il existe des processus. Mais ce que nous n'avons pas, c'est un processus de conformité d'ICANN-ORG avec la loi. C'était en fait une blague. C'était un petit peu comme si on demandait à la communauté de s'occuper des impôts. Hein. Donc, le processus veut dire qu'il a fallu en fait inventer un nouveau processus, déjà, à la base. Nous vous avons demandé votre point de vue. C'est la première chose que nous avons fait. C'était donc la base avec les cas utilisateurs. Et ça, c'est des choses qui ont été basées sur vos questions. Nous avons engagé des avocats avec Hamilton, un cabinet d'avocats. Et ils nous ont dit ce qu'ils avaient constaté. Et ça, c'était important parce que pendant tout ce processus, en fait, nous avons un petit peu défendu le système WHOIS. Donc voilà, on a fait tout ceci et on s'est dit, bon, le RGPD va avoir un impact sur le WHOIS. Ensuite, l'ICANN devra contrôler les données. Très bien. Ensuite, nous avons reçu un document des BPA et donc ils se sont dit qu'un modèle d'accès par niveau serait bon. Très bien. Nous avons reçu plusieurs modèles de la communauté sur demande. Nous les avons pris en compte et nous avons présenté une solution hybride. Mais il y a un problème et c'est un vrai problème parce que du point de vue juridique, il faut que moi je prenne une décision. Je ne peux pas éviter cette décision. À un moment ou à un autre, ICANN-ORG en tant qu'entité doit être conforme, doit suivre la loi, respecter la loi. Donc, actuellement, toutes les discussions que nous avons, en fait, elles sont théoriques. Nous ne savons pas ce que vont dire les APD. Et c'est ça qui est étrange avec cette loi, parce qu'en fait, c'est une loi à deux volets. C'est une loi sur le comportement. C'est une loi qui définit comment nous devons nous comporter. Et je vais répéter la blague que je répète à chaque fois. C'est la loi d'une mère. Ma mère, quand j'étais jeune, me disait « Si t'es sage, tu pourras sortir. » Eh bien, j'étais sage. Mais apparemment, pour elle, être sage, ça ne voulait pas dire la même chose que pour moi, n'est-ce pas? Et c'est ça le problème avec la loi. La loi veut nous former à penser différemment par rapport à la vie privée et par rapport aux besoins d'information. Donc, nous avons fait très attention à ne pas dire exactement comment les choses vont se faire. Heureusement, la communauté de l'ICANN, et j'en suis très reconnaissant, a inventé un modèle. Et en fait, personne n'est d'accord avec ce modèle. C'est ça qui est drôle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la présentation de ce matin. Vous pourrez nous dire si on s'est trompé ou pas. Mais de toute évidence, il y a des divergences d'opinion dans la communauté. Par contre, la communauté est d'accord sur une chose, et je sais qu'on en parle depuis un certain temps, c'est donc qu'on va utiliser ce modèle d'accès par niveau. Donc, il y aura certaines choses qui seront montrées, il y aura certains murs et donc un accès à plusieurs niveaux. Et ça, c'est 80% déjà du problème de la discussion. Et donc, je dois dire que la communauté s'est mise d'accord là-dessus et ça, c'est quelque chose qui est important du point de vue juridique. Alors, maintenant, on se trouve dans une situation, la situation dont on avait parlé, en fait, il y a 6 ou 8 mois. On en est à ce point critique. Il y a quelques semaines, quelqu'un m'a dit « Il faut bien que tu comprennes, Yoran, lorsque tu diras que tu as un plan et que tu feras ce que tu avais dit que tu allais faire, en fait, les gens vont être surpris au sein de l'ICANN. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous avons suivi ce que nous avions dit que nous allions faire dans les délais qui nous avaient été impartis et nous nous retrouvons encore dans une situation problématique parce qu'il nous faut avoir le point de vue des APD européennes pour savoir un petit peu comment utiliser cette loi une fois qu'elle sera adoptée. Sinon, il y aura un problème, le WHOIS sera fragmenté. Alors n'oubliez pas que mon rôle, ce n'est pas de faire le juge entre les deux camps. Il y a déjà les politiques qui sont établies par la communauté de l'ICANN avec les obligations contractuelles. Mais malheureusement, nous n'avons pas de politique WHOIS. Nous n'avons jamais fait le travail sur le droit privé, sur la vie privée. Mais nous avons une obligation contractuelle et nous savons ce qu'il faut faire en matière de WHOIS. Alors, pendant la période, nous avons réussi à solutionner certaines choses, mais nous n'en sommes pas encore à un consensus total. Donc, le modèle que vous avez, c'est ce qui, à notre avis, selon ce que nous comprenons de la loi, est adéquat. C'est une distribution relativement adéquate. Et pour différentes raisons, les gens ont différents points de vue. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que la loi, lorsqu'elle entrera réellement en vigueur, que va-t-il se passer? Parce que un des points techniques dans tout ça, c'est que moi, je ne pourrais pas faire appliquer nos contrats sans connaître la loi. Nous n'avons pas de processus pour ça. Il n'y a pas de politique qui couvre cette question. Donc, si les APD, et nous avons une excellente conversation avec elles, excellente conversation, et je respecte énormément le travail qu'elles font, mais si nous n'avons pas suffisamment d'autorisation de leur part avant fin mai, il y aura un WHOIS fragmenté. Parce qu'il est absolument impossible de forcer les parties contractantes à remplir leurs obligations qui sont définies dans les contrats, je ne pourrais pas le leur demander parce qu'il y aura des incertitudes du point de vue juridique. Même chose pour ICANN-ORG et donc cela augmentera la fragmentation. Donc ça, c'est important dans les discussions que vous avez. Mais n'oubliez pas que certaines des questions que vous m'avez posées, eh bien, c'est en fait aux APD qu'il faut les poser maintenant. Alors je ne sais pas si vous avez lu le livre de recettes que nous avons publié. On appelle un livre de recettes parce qu'en fait, c'est une recette pour la pizza. Hein? Ce livre de recettes contient beaucoup de ces questions auxquelles nous n'avons pas de réponse encore. Cela ressort de ce que l'on va dire. Nous avons déjà pris rendez-vous avec les APD. Nous allons leur présenter nos questions. Et peu importe de quel côté les questions nous arrivent, d'un côté d'un camp comme de l'autre, mais il faut simplement que nous ayons des réponses claires de la part des autorités de protection des données européennes. Alors, ce qui est important, c'est également le rôle des gouvernements. Parce qu'en fait, la protection des données, ça appartient au gouvernement. Et nous avons la chance d'avoir représentation de ces gouvernements au GAC dans cette réunion. Donc, ne me dites pas uniquement ce que moi je fais comme erreur dans le cadre de ce modèle. Allez vous adresser aux représentants du GAC. Je l'ai dit aujourd'hui, allez embrasser les représentants du GAC. Souvent, le GAC, on a l'impression que c'est quelque chose de différent. En fait, c'est un véhicule, c'est un lien direct au gouvernement. Et je pense qu'on ne l'utilise pas suffisamment. Alors, ce que nous essayons d'accomplir, c'est qu'on est un petit peu coincé entre deux chaises. Et moi, j'ai certaines responsabilités par rapport à la communauté. Vous avez le droit de me dire certaines choses, mais je dois suivre certaines règles. Alors, est-ce qu'on en est arrivé à la fin? Non. Ce que l'on sait, c'est que si on arrive à obtenir un modèle qui est approuvé par les APD, eh bien, il y aura un problème. Il y aura un écart entre les politiques actuelles de la communauté et ce que nous, à l'ICANN-ORG, on peut mettre en œuvre dans le cadre de nos contrats. La situation est mauvaise. Donc, ce qu'il faut faire, ce que vous devez faire, c'est repasser par le processus de développement de politique et d'éclairer ceci avec le RGPD. Parce que le RGPD, c'est la toute première instance dans laquelle la législation a un impact direct sur nos politiques. Et on ne peut pas avoir un manque de correspondance entre ces politiques et la loi. Et donc, pour avoir cette discussion entre le droit à la protection des données et le besoin d'accès aux données, tout ceci doit être équilibré. On n'y est pas encore. Il y a beaucoup de pays dans le monde entier qui sont en train de réfléchir à d'autres solutions similaires au RGPD. Il y a une tendance dans ce sens. Ce n'est pas que les gens soient mauvais, mais simplement que les politiciens qui sont élus se rendent compte que tout ceci a un impact sur la société, en bien comme en mal. Et donc, ce que ces gens font, c'est qu'ils regardent un petit peu ce qui ne marche pas et ils essayent de trouver un moyen avec des propositions de loi de solutionner ces problèmes. Et voilà pourquoi il y a autant de propositions En Europe actuellement, il y a une loi qui est en cours de discussion qui s'appelle E-Privacy, donc droit privé électronique, qui est un petit peu une extension de la discussion sur le RGPD. Et je vous promets que bientôt, on va se retrouver ici même à discuter de l'impact de cette nouvelle loi sur les droits privés électroniques sur nos politiques. Dans le cadre du modèle multipartite, nous sommes en train de travailler à un document sur toutes les législations potentielles, donc RGPD, e-privacy, pour en fait collecter toutes ces informations. Et nous le publierons rapidement parce que c'est une bonne base factuelle de départ de discussion. Il y a des lois qui sont proposées. Si vous faites partie d'un chapitre ISOC, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser parce que l'ICANN n'est pas une organisation politique, donc on ne va pas s'engager dans ces discussions politiques. Une des choses dont on a beaucoup parlé, c'est donc la question de l'accréditation. Si vous avez un modèle d'accès par niveau, il vous faut une accréditation. Donc, selon ce que moi je comprends, et je dois vous dire, je suis humble par rapport à ça, mais les APD considèrent que l'ICANN est un modèle d'auto-accréditation. Donc, si on s'auto-accrédite, en fait, ce serait ça. C'est ce que nous comprenons. Alors, je ne sais pas si c'est effectivement ça. Il faudra leur poser la question. En général, les gouvernements se font confiance les uns aux autres. Donc, nous avons commencé à discuter d'un modèle d'implication du GAC. Donc, pas opérationnel. Ce qu'on leur demande de faire, et il y a beaucoup de confusion par rapport à ça, il y a d'ailleurs un document qui existe là-dessus, qui pourra peut-être éclaircir les choses, mais les pays du monde entier prennent des décisions par rapport à leurs propres forces de police. Et cette liste nous est envoyée par le GAC. Ils ont les numéros de téléphone du GAC parce que ce sont des membres qui font partie des autorités publiques. Donc, il est tout à fait pratique pour eux de s'assurer que nous obtenons les informations par ce biais et que nous les fournissons aux parties contractantes. Alors, autre problème, il peut y avoir des problèmes d'accès au système WHOIS et donc nous avons demandé au GAC, nous avons commencé à discuter avec le GAC de réfléchir à un code de conduite parce qu'il faut qu'il y ait un code de conduite qui décrive pourquoi est-ce que cette demande d'accès aux informations est légitime. Et ensuite, il y aura inscription sur ce code de conduite, mais il y a une entité externe qui va vérifier le comportement. Par exemple, l'OMPI pourrait s'occuper de cette question. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que cela change le statut du GAC. Pour moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous avons maintenant un moyen, un véhicule qui peut nous aider. Nous ne demandons pas au GAC d'être opérationnel. Alors, je suis désolée, je dois partir. Nous avons des problèmes de chevauchement de séance, mais si vous avez des questions à poser, je peux y répondre rapidement. Adiel, Hadia au micro. Si j'ai bien compris, l'élément clé dans tout ça, c'est l'équilibre entre les intérêts légitimes et les droits des personnes concernées. Donc, est-ce que ceci sera mis en application, mis en œuvre? Il y aura nos micros. Non. Je vais vous expliquer. Donc, ICANN.org n'intervient pas dans la discussion sur l'équilibre. De manière non officielle, ce que je pourrais dire, c'est que c'est ce qu'on aurait dû faire dans le modèle multipartite. Mais je comprends bien, depuis les discussions qui ont lieu au cours des 6 mois, que c'est quelque chose que nous n'avons pas pu faire. Et justement, cela montre à quel point c'est compliqué, cet équilibre. Donc, il faut qu'il y ait un modèle de conformité à la loi. Et de l'autre côté, il faut, la communauté va dire, voici mes lois. Je ne peux pas inventer une nouvelle politique. Je ne peux pas ignorer une politique. Donc, je dois me trouver un petit peu au milieu. Et cet exercice d'équilibre, c'est ça le problème. Tijani au micro. Merci beaucoup, Yoran. Merci surtout pour cette présentation sur le processus. Vous l'avez très bien présenté. Et je crois que cela sera utile pour que nous puissions mieux comprendre le processus. Il faut que vous sachiez que nous n'avions pas vraiment compris que vous alliez vous adressiez au gouvernement par le GAC. Ça n'était pas clair. Non, on m'a dit, c'est le GAC. Donc, il semblerait qu'il y a un document que vous avez distribué dans lequel il est écrit le GAC et pas les gouvernements par le GAC. Il y aura nos micros. Vous savez, la communication existe lorsque le récepteur du message a compris ce qu'on a dit. Je crois que nous avons suffisamment communiqué. Nous avons quelque chose qui s'appelle le GAC, donc le comité consultatif gouvernemental. Et donc, le mot de gouvernement est à la fin de cet acronyme. Et moi, je considère les choses du point de vue APD. Donc, oubliez le WHOIS ouvert un instant. Le WHOIS n'existe pas. Hein? C'est un peu comme de comparer le modèle d'accréditation à un système WHOIS ouvert. Mais l'accès par niveau, c'est la diligence. Donc la police, etc., pourra avoir accès à certaines choses pour aller au tribunal. Ça, c'est un modèle. On en a parlé. Alors, mon problème est le suivant, qui n'est pas forcément le vôtre d'ailleurs. Mais étant donné les politiques qui ont été établies par la communauté, je dois avancer sur cette ligne, je dois aller autre part, plus loin. Si, par exemple, vous êtes dans la société civile et que vous souhaitez des règles très strictes par rapport à ça, bien sûr que vous voulez être au milieu. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vont dire les APD, on ne sait pas. Par exemple, dans le document de Berlin, eux, ils disent qu'ils ne font pas confiance à l'ICANN pour l'accréditation. Je crois qu'ils l'ont dit de manière très claire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous n'avez pas d'accréditation, si vous voulez y arriver, où est-ce qu'on s'arrête? Sans doute au niveau des gouvernements. Mais on va se déplacer sur cette ligne. Et ça, c'est une question importante. Les gens, j'ai l'impression, pensent que je rentre dans un camp ou dans l'autre. C'est pas du tout ça. Il faut que je fasse l'équilibre entre les deux. Et de l'autre côté, et je l'ai dit ce matin, on ne s'arrête pas là. Ce qui se passe également, c'est que les gens ont accès et doivent avoir un contrat, une déclaration qui définit ce qu'ils vont utiliser pour ces données. Ils ne vont pas simplement utiliser les données pour ce qu'ils veulent. Il faut qu'il y ait un objectif spécifique d'utilisation des données. Et donc, eux aussi, ils doivent répondre du RGPD. Et ça, c'est un concept important. Nous contrôlons déjà les données dans une certaine mesure, donc on n'ajoute pas un risque. Mais pensez-y un petit peu. ICANN.org, pour pouvoir faire le travail que nous faisons à Octo, doit avoir une autorisation pour que nous puissions nous occuper de la conformité. Donc, ce n'est pas facile pour nous non plus. Mais je crois que pour les personnes qui travaillent dans le domaine de la cybersécurité, de la lutte contre le spam, etc., ces personnes doivent penser aussi à leurs organisations. Comment est-ce que ces gens vont avoir accès aux données ? Et quelles sont leurs responsabilités lorsqu'ils ont les données en leur possession? Tijani au micro. Merci, Yoran.
Tijani au micro, je vais recevoir. Si vous avez des questions pour Yoran, il m'a dit qu'il n'avait pas de commentaires sur notre déclaration. Oui, Yoran, vous me l'avez dit. C'est normal. Je comprends. Il a dit qu'il y avait beaucoup de mauvaises compréhensions. Et cela est tout à fait normal. Et il a d'autres engagements. Donc, s'il y a une question pour lui, posons-lui la question maintenant. Il y aura le micro. Je lutte pour les droits de tous, pour que tout le monde puisse exprimer son opinion. Et je comprends que vous devez comprendre les limitations de mon travail. J'ai appelé des personnes de toute la communauté pour demander quelles étaient leurs opinions. J'aurais même demandé de me dire si j'étais un idiot. Je n'aurais pas dit ça vraiment, mais bon, c'est un exemple. Tijani, y a-t-il des questions pour Johan? Nouvel intervenant, je suis au NCUC et je représente la région Pacifique-Asie. Il serait peut-être important de garder à l'esprit que durant cette réunion et durant l'avenir, qu'il faut penser aux groupes de droits de l'homme dans le Moyen-Orient et en Asie. Il ne faut pas oublier qu'à travers tous ces termes techniques, tous ces processus, il y a des vraies personnes et nous devons nous préoccuper pour eux. Nous avons parlé des réglementations, les réglementations maternelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais pour moi, ça pourrait être utilisé contre moi, ça pourrait violer mes droits de base en Amérique, en Saoudite Arabie. Vous savez, il y a des tas de soucis en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de gens qui sont censurés parce qu'ils parlent, qu'ils s'expriment au Moyen-Orient. Donc, nous avons beaucoup de questions de liberté d'expression. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison parce qu'ils se sont exprimés publiquement. Donc, ces mêmes gouvernements ont l'accès à toutes ces informations et ils pourraient cibler ainsi plus de personnes puisque cette information est publique. Il y a déjà tellement de violations. Et bien sûr, qu'est-ce qui va se passer avec la confidentialité de toutes ces informations? Il faut vraiment nous assurer que ces histoires qui sont surpassées par les gouvernements et les entreprises dans cette sphère doivent être connus et je suis heureuse de voir que d'autres représentants sont là pour discuter ces questions avec moi. Mais je voulais juste mettre cette question sur la table. Yoran Malby, vous me donnez plus de pouvoir que j'en ai. Personne au micro. Oui, je sais qu'il y a des limites, mais peut-être que vous avez gardé le sujet à l'esprit. Yoran, oui, c'est très important pour moi. Parce que je ne peux pas parler si je pouvais venir au micro et dire je vais parler en ma capacité, mais pas en la capacité d'un PDG de l'ACAN, je n'ai pas le droit de rentrer dans ces discussions. Vous parlez de la communauté de l'ACAN, mais là, moi, j'ai mes propres opinions sur ce sujet. Et je suis sûre qu'à cette table, nous sommes des représentants de différents groupes d'intérêt. Et c'est important pour nous tous. J'aimerais, si vous voulez, pour être honnête, je l'ai déjà dit, il y a un échec dans le système. Après 20 ans de discussion. Et donc, le WIS existe depuis, même avant l'ICANN. J'espère, puisque j'en parle depuis longtemps, j'espère que la communauté va se rassembler pour travailler sur cet équilibre, donc avec le droit, parler du droit de la confidentialité, le besoin de la formation à ce sujet. Quand vous voyez toutes les fausses informations qui affectent votre ordinateur et qui posent des tas de soucis. Il y a des tas de choses pour lesquelles on utilise l'information qui sont avantageuses. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le monde qui est mieux placé pour qu'on puisse avoir cette conversation parce que nous avons ici toutes les opinions rassemblées. C'est une question importante pour moi. C'est pas parce que je ne veux pas montrer de leadership et que je ne veux pas en faire partie de cette discussion, mais c'est important que ce rôle que j'ai respecte chacun d'entre vous. Allez faire les changements si vous voulez le faire. Je dois partir malheureusement. Tijani au micro. Je voudrais remercier Yoran parce que il vient toujours dans notre espace. Il prend toujours le temps de nous parler et de discuter des sujets que nous avons choisis. Merci encore à Yoran. Mais je vais quand même dire quelque chose. Un mot à propos du RGPD. Vous avez dit dans l'espace Afrique, à Abu Dhabi, que le RGPD, c'est une opportunité pour la CAN. Et je suis d'accord avec vous, parce que la CAN en discute des questions sur le LUIS depuis le début de la CAN. Et nous n'avons jamais reçu un consensus, parce qu'il y a deux valeurs, la confidentialité et la transparence. Derrière la transparence, il y a beaucoup d'intérêts. Et derrière la question de la confidentialité, il y a d'autres intérêts. Ces deux parties sont très, très fortes, très puissantes. Donc, il est difficile pour la communauté de l'ICANN de trouver un consensus. Donc, ce RGPD va obliger l'ICANN aujourd'hui de trouver une solution. Donc, je pense que c'est une opportunité, comme il l'a dit. Encore une fois, je vous remercie et j'espère que la prochaine fois que nous tiendrons cette réunion, vous serez avec nous. Yoran, si vous m'invitez, je viendrai. Vous allez peut-être le regretter. Tijani, au micro. Merci beaucoup. Tijani au micro, notre deuxième orateur, M. Chalabi, le président du conseil d'administration de l'ICANN. Chérine vient de notre région, donc du Moyen-Orient, et il vient toujours lorsque nous l'invitons. Il m'a aussi dit qu'il a très peu de temps à passer avec nous, donc nous allons lui passer la parole immédiatement. Cheryl Malabi, bonjour à tous, bon après-midi. Salam alaikum. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ici. La dernière fois, vous m'avez invité, c'était à Abu Dhabi. Et j'ai trouvé que la discussion était très intéressante, envigorante. C'est comme de rentrer chez moi. C'est là où sont mes racines. Et je suis toujours très heureux d'être parmi vous et de comprendre que vous vous attaquez à des questions très importantes. Cela permet à ce que notre voix, celle du Moyen-Orient, soit entendue au niveau mondial. Nous nous le devons à nous, mais aux générations à venir. Nous devons améliorer, surtout au Moyen-Orient, l'économie numérique, l'environnement numérique, pour que nous puissions tous tirer profit de la croissance socio-économique. Pas seulement pour nous, encore une fois, mais pour la génération à venir. Je n'ai pas préparé de discours sur une thématique spécifique. Je ne sais pas combien d'entre vous sont venus à la cérémonie d'ouverture, mais nous avons beaucoup discuté sur beaucoup de thématiques. Je suis là pour répondre à vos questions. Je sais que vous avez déjà entendu parler du RGPD par Yoran, et on ne va quand même pas parler des mêmes informations. Mais je peux vous donner quand même une perspective du conseil d'administration à propos du RGPD. Une perspective sera peut-être un peu différente. Le conseil soutient à 100% les efforts qui sont pris par donc le PDG, Yoran. Nous voulons remercier la communauté pour tous les efforts qui ont été mis en avant pour mettre en place ce modèle intérim. Nous voyons cela en trois parties. Nous avons le modèle intérim, le programme d'accréditation et les mécanismes de mise en œuvre. Nous regardons aussi une perspective de risque. Où sont les risques? Quelle partie sera acceptée? Quelle partie sera rejetée? Quelle partie va fonctionner ou pas? Vous avez donc entendu Yoran parler du modèle intérim et vous savez, et nous savons que maintenant nous avons les efforts cumulatifs de beaucoup de modèles qui ont été donc rassemblés et cela ne va pas plaire à tous. Nous savons qu'il y a encore beaucoup de différences entre nous. Thomas est là d'ailleurs et je l'ai entendu parler dans la discussion ce matin. Comme vous le savez, c'est une situation très difficile et vous n'allez pas trouver la solution parfaite. Le Conseil est très heureux du progrès qui a été fait. Nous espérons que le DPA va fournir des directives d'aide pour nous aider. Ce serait dans l'intérêt de tous s'il le faisait. Quand il s'agit du programme d'accréditation, comme vous le savez, il y a discussion en cours avec le GAC. Et donc, j'ai entendu Thomas dire que si l'on faisait cela, on changerait le rôle du GAC, etc. J'ai tout entendu sur cette thématique, tout ce que vous avez dit, Thomas. Il est clair qu'il n'est pas probable que d'ici le 26 mai, vous aurez un système complètement en place. Si le DPA fournit des lignes directives, nous devons avoir un modèle d'accréditation qui soit en place. Alors ensuite, on parle d'exécution, je n'aime pas utiliser ce mot d'exécution, mais de mise en œuvre, disons. Il y a différents parcours que nous pourrions suivre. Nous attendons de voir ce qui va se passer avant de nous diriger vers un ou l'autre parcours, des parcours. Il faut peut-être produire des spécifications qui soient intérim. Comme vous le savez, le contrat avec les parties contractantes nous permet de mettre en place des politiques temporaires et qui ne peuvent durer que 3 mois et qui peuvent tout de même être renouvelées 3 fois, mais qui peut-être à la fin pourraient être étendues. Il pourrait aussi y avoir un système de programme et d'autres mécanismes. Il y a des risques qui sont associés à chacune de ces propositions. Nous n'en sommes pas là. Nous voulons voir comment, quelle évolution nous allons suivre avec le DPA. Voilà où nous en sommes à ce jour. Il n'y a rien de facile, rien de garanti. Il y a énormément de risques, beaucoup de risques dans tout ce que nous faisons. Et nous espérons que le DPA va nous fournir des lignes directives. Je pense que ce serait la meilleure chose pour toutes les personnes concernées, tous les groupes concernés. Nous savons où nous en sommes et nous pouvons aller de l'avant. Nous savons qu'il y a différence et nous devons essayer de résoudre les problèmes ensemble. Comme je l'ai dit ce matin, il y a des défis massifs devant nous. Nous devons travailler tous ensemble, le Conseil, ICANN-ORG et la communauté. Donc, encore une fois, tous ensemble, en équipe, il n'y a que comme ça que nous dépasserons les obstacles. Il n'y a pas d'autre manière de le faire. Je vais m'arrêter ici et peut-être répondre à un couple de questions. Si j'ai le micro, vous avez répondu, enfin, aussi, Johan en a parlé. Il a dit à Thomas, non, c'est pas le GAC, c'est le gouvernement à travers le GAC. C'est pas clair pour tout le monde. Même vos documents ne sont pas assez clairs à ce sujet. De toute façon, si quelqu'un a des questions pour Chérine, il serait bon de le faire maintenant parce qu'il a très peu de temps. Madame Arache, je suis membre NAMCOM. Je vais parler d'autre chose que du RGPD. Tant mieux, Chérine dit, tant mieux. Donc, je vais parler d'autre chose. Je voudrais parler des différences, ce mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Les différences entre ICANN.org, donc ses bureaux en Europe, en contraste avec le reste du monde. Quel impact y aura-t-il là-dessus? Chérine, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous parlez des systèmes internes de la ICANN? Oui, c'est une piste différente par rapport à celle de Louise. Oui, Johan a une équipe qui travaille là-dessus de façon séparée. On n'en a pas parlé avec vous déjà? Je ne connais pas les détails de cela, mais nous savons que beaucoup d'efforts ont été mis sur les. Il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement et nous sommes confiants que ce n'est pas un problème pour l'organisation de l'ICANN au niveau interne. Tijani, merci. Y a-t-il une autre question? Hadia Minari, au micro. Ma question est celle-ci. Elle est liée? Chérine Chalabi, Teresa est là. Elle me dit qu'elle peut répondre aux questions liées à ICANN.org de ma part. Donc, Teresa, nous avons fait une évaluation avec tous les départements qui sont rentrés en contact avec la communauté pour bien comprendre le genre de données qui sont collectées et ainsi pour faire une analyse et prendre les initiatives nécessaires dans l'avenir. Nous avons un processus en place qui est donc très puissant et qui fonctionne bien. Chérine, au micro, nous serons conformes quand ? Teresa, nous serons conformes aussi vite que possible. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont en cours et nous essayons de faire le plus vite possible. La nouvelle intervenante. Oui, il y aura des différences entre les processus ou les procédures des documents en Europe et dans les autres bureaux du monde, comme à Singapour ou à Los Angeles. Teresa, au micro. Oui, je vais vérifier les détails. Je reviendrai vers vous. Mais nous voulons être aussi efficaces que possible pour qu'il n'y ait pas des systèmes différents à différents endroits. Mais je vais revenir vers vous avec des détails plus définis. Tijani, au micro. Adja, vous voulez reprendre la parole? Adja Aminia, au micro. Donc, ma question est liée à la mise en œuvre du modèle intérim, quel qu'il soit. Est-ce que cela sera fait au niveau mondial ou seulement pour les registres ou les opérateurs ou les distributeurs qui ont des données des Européens, des citoyens européens? Si cela peut s'appliquer et si cela ne va pas être appliqué de façon mondiale, est-ce que cela veut dire que nous aurons deux modèles en place qui fonctionneront en parallèle? Teresa, au micro, comme vous l'avez vu dans le document qui a été publié sur ce sujet spécifique en ce qui concerne l'applicabilité, le modèle sera appliqué donc à la zone économique européenne, mais peut-être aussi de façon mondiale, dépendamment des accords de la CAN avec les parties contractantes. Il y a encore un domaine dans lequel nous allons travailler, et puis bien sûr, nous sommes prêts à recevoir des contributions de votre part sur le sujet. Tijani, micro. Y a-t-il une autre question? Vous m'avez dit, madame, que vous aviez une question. Madame Adi, au micro, quand je parle aux gens et que les gens responsables de la conformité vis-à-vis du RGPD en Europe, ils disent que le DPA, d'habitude, ne donne pas, les APD, pardon, ne donnent pas de direction. Mais s'ils le font, c'est pas forcément des choses qui soient certaines. Donc, quand on écoute les APD, ils nous disent, ah, on ne sait pas si ça va fonctionner, etc. Donc, d'un autre côté, je ne sais pas pourquoi l'ICANN ne prend pas une approche très restrictive pour être conforme au RGPD. Et ensuite, en arriver avec un accès précis lorsque tout cela sera terminé pour qu'on puisse donc mettre en place une approche à différents niveaux et tout le monde sera content. Teresa, au micro. Je pense que vous aviez un dialogue avec Chérine, le directeur du Conseil. Je ne sais pas, toutes ces discussions et ces commentaires liés aux détails du RGPD nous donnent une opportunité, vous donneront une opportunité de parler durant les séances publiques. Le modèle qui a été proposé et peut être discuté quand il s'agit de la conformité du UIS par rapport au RGPD. Il y a donc des conversations qui sont en cours avec la communauté. Il y a des documents qui sont publiés. Il y a encore des questions ouvertes à la communauté sur ce sujet. Donc, je ne voudrais pas dévier de l'opportunité que nous avons ici et pour vous de vous engager donc avec le président du Conseil, Chérine. Tijani, Wafa, vous voulez poser une question? Pas trop de détails, Wafa. Wafa, au micro. Nous parlons de la mise en application ou de la mise en œuvre, mais j'ai entendu ce matin qu'il y a une proposition qui va venir devant la communauté, qui va passer à travers un processus de PDP. Il ne s'agit pas seulement de mise en œuvre. On n'en est pas là, on n'en est pas à ce stade-là pour le document intérim dont on parlait tout à l'heure. Teresa, oui, quand il s'agit de la mise en œuvre, il s'agit seulement du modèle intérim en lui-même, pas de le contexte du groupe de travail RDS. C'est pas quelque chose que la communauté va discuter à long terme, pas quand il s'agit de politique avec un grand P, si vous voulez. Tijani, Louis, le PDP, c'est un processus de communautaire qui est très long et nous devons le faire d'ici le mois de mai. C'est pour ça qu'il y a un modèle intérim en place. Nouvel intervenant, je voudrais faire un commentaire, pas une question pour changer. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup participé à la CAN. Je viens, je vais, j'observe. C'est incroyable comment la communauté ICANN et ICANN-ORG fait face au RGPD. C'est vraiment une question très complexe qui est arrivée sur la scène très rapidement. Je sais que le WIS a fait l'effet d'une discussion depuis longtemps, mais maintenant, il y a un gros problème. Et la CAN fait un très bon travail. Je suis sûre que des solutions vont être trouvées. Et je voudrais remercier la CAN pour son travail.
Comment?
Tijani, micro. Merci pour ce commentaire. Y a-t-il d'autres questions pour Chérine? Et j'espère qu'elles ne sont pas trop détaillées. Allez-y, oui. Nouvelle intervenante au micro. Est-ce que l'ICANN pourra... Votre nom, Mona Sohar d'Égypte. Petite question, est-ce que l'ICANN pourra respecter le délai du RGPD au mois de mai ou pas? Est-ce qu'il y a un plan de secours si cette date limite n'est pas respectée? Chérine au micro, je crois que tout a été dit. Nous attendons les réponses des APD. Et je crois que une fois que nous aurons reçu leurs commentaires, ce sera plus clair. Je crois que nous devrions avoir leur réponse fin mars. Je ne sais pas, Thomas, vous savez peut-être. Bon, fin mars, à peu près. Donc on saura, en principe, à ce moment-là. Et j'imagine que Yoran parlera à la communauté et nous dira un petit peu où nous devons aller. Tijani, au micro. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Pas d'autres questions? Chérine au micro. Alors, je comprends bien que le RGPD est dans l'esprit de tous. Yoran est le porte-parole officiel au nom de l'ICANN et au nom du Conseil. Et donc, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, moi-même. Parce que je crois qu'il faut respecter l'accord qui existe entre nous. Mais vous devez savoir que nous appuyons Yoran à 100%, tout son travail. Nous sommes même très heureux de l'implication de la communauté. Et donc, je souhaite vraiment remercier tout le monde. Merci Thomas, Rafik, merci à toutes les personnes qui ont participé. Je crois que c'est ça l'atout de notre communauté. Nous avons des divergences d'opinion, comme je l'ai dit ce matin, parfois même, nous avons un discours public qui est divergent. Mais c'est ça le modèle multipartite. C'est pour ça que nous sommes uniques. C'est pour ça que nous avons un système ouvert de démocratie qui nous amène à une solution. Et certes, la solution prend plus longtemps, mais je crois qu'à la fin, nous avons l'adhésion d'un plus grand nombre de personnes. Alors, invitez-moi encore une fois, la prochaine fois, et j'espère qu'on parlera d'autre chose que du RGPD, mais en tout cas, je suis toujours ravie de pouvoir retrouver ma famille. Tijani, au micro. Je vous invite, Chérine, à rester avec nous pour écouter la discussion, si vous avez le temps, bien sûr, c'est important. Chérine, au micro. Mais vous allez parler du RGPD. Chérine, au micro. Je suis désolée, je ne peux pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Vraiment, j'apprécie énormément. Tijani au micro. Merci, Chérine. Nous apprécions énormément que vous preniez toujours le temps de venir nous voir. Vous ne nous dites jamais non. Alors, j'ai fait exactement la même session pour l'Afrique et donc je dois quand même vous remercier parce que vous venez à chaque fois que je vous invite, Chérine au micro. Mais je suis toujours ravie de le faire. Merci encore une fois. Alors, Tijani au micro. Maintenant, on se met au travail. Alors, tout d'abord, Nous allons présenter le sujet et pour ça, nous avons invité deux personnes. La première n'a pas été invitée, elle fait déjà partie de la famille, mais la première personne que nous avons invitée, c'est Thomas Rickert, qui est directeur des noms et des numéros pour ECHO. C'est une association du secteur de l'Internet. Et donc, Thomas connaît très bien le RGPD. Et il a beaucoup parlé de cette question. Donc, nous l'avons invité et il va présenter le sujet de son point de vue. Thomas Rickert au micro. Merci beaucoup, Tijani. Je crois que pour moi, le plus gros enjeu, ce n'est pas le RGPD, mais c'est de pouvoir me limiter à 5 minutes quand je parle de ce sujet. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité à cette réunion. Stéphanie Perrin a fait une déclaration très importante ce matin lorsqu'elle a dit qu'il est malheureux qu'on doive parler d'une loi européenne. On devrait parler des droits de l'homme. Ce serait plus adapté. Et donc, cela nous permet de mettre les choses en perspective parce que nous avons deux intérêts différents qui sont chacun à un bout. Donc, nous avons l'intérêt de la personne concernée, ses données personnelles, ses vies, les vies qui sont en jeu s'il y a infraction aux lois locales en cas de problème de démocratie. Et vous avez les intérêts des forces d'application de loi, du secteur de la sécurité qui souhaitent avoir accès à la base de données WHOIS pour faire son travail. Et ces deux camps ont raison. Et bien sûr qu'on souhaite protéger les enfants ou empêcher le hameçonnage. Donc, que faut-il faire? Eh bien, essayer d'être conforme avec les lois en vigueur. Et le RGPD, c'est la loi dans les lois sur la protection de la vie privée qui existe ou qui émerge dans différents pays. Et ça semble être la loi la plus stricte. Donc, si vous êtes conforme au RGPD, eh bien, en principe, vous devriez être ou respecter les lois sur la protection de la vie privée qui existe dans le monde entier. Alors, le problème, c'est qu'il y a un système qui est ouvert depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Et les gens se sont dit, pas de problème, le système va rester ouvert. Même si les autorités de protection des données disent depuis très longtemps que le système actuel est illégal. Alors, je vais limiter mes commentaires à la partie WHOIS du RGPD. Certes, le RGPD est un sujet beaucoup plus large, donc il faut déjà parler de ce qui est collecté. Quelles sont les données qui sont en tiercé? Quel est le rôle des opérateurs de secours? Tout ceci. Mais je vais uniquement parler du WHOIS pendant quelques minutes. Alors, il y a énormément de progrès dans la proposition dans ce livre de recettes de l'ICANN. Mais malgré tout, le document manque certains éléments parce qu'en fait, il y a des titres et les attentes de l'ICANN, c'est que on envoie ceci aux APD et les APD vont remplir les trous. Et pour moi, cette attente, eh bien, elle va être déçue parce que les APD ne vont pas faire le travail de l'ICANN, des parties contractantes en tant que contrôleurs. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut travailler avec l'ICANN pour informer l'ICANN, pour arriver à un modèle révisé, un meilleur livre de recettes qui contienne davantage de détails. Alors, je voudrais que les choses soient très, très claires. Le livre de recettes représente une amélioration énorme par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a énormément de choses qui sont très positives. Et Yoran a dit qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas contentes. Je ne suis pas parmi ces personnes. Moi, je suis content du travail qui a été fait à l'ICANN, mais il reste encore des choses à faire. Alors, je vais vous donner un exemple. On parle d'accès sécurisé. On parle d'intérêt légitime. Mais on met tout ça dans un même panier, donc d'utilisateurs accrédités qui ont accès à des données qui sont derrière un pare-feu ou derrière un accès sécurisé. Mais attention, il y a des nuances. Par exemple, les avocats qui s'occupent des marques de commerce souhaitent vérifier que les critères pour les procédures URS ou UDRP sont présentes. Et donc ça, il faut le considérer de manière complètement différente que si c'est un accès des forces d'application de la loi. C'est différent. Et il y a également les autorités de loi aux États-Unis et en Union européenne. Ensuite, il y a la communauté des marques de commerce. À quoi cette communauté a-t-elle accès? accès du point de vue juridique. Et ensuite, il y a les demandes d'accès pour recherche inversée, pour données dans le WHOIS qui sont des données historiques. Donc le WHOAS, pour ainsi dire. Hein. Donc c'est encore différent. Ensuite, il y a tout le secteur de la sécurité qui a besoin de données pour ses enquêtes et les gouvernements qui souvent s'appuient sur des organisations privées pour leur propre service de renseignement. Donc, comme vous le voyez, nous avons beaucoup de clients du WHOIS qui souhaitent avoir les données à des fins différentes. Tout le monde parle des objectifs, pourquoi le WHOIS est une bonne ressource, etc. Mais, comme la Commission européenne l'a dit, non seulement il faut un objectif, mais aussi un motif juridique. Donc, il faut absolument qu'il y ait un raisonnement juridique pour définir qui aura accès à quoi, de manière très détaillée. Et donc, il faudra avoir un raisonnement différent pour le secteur des marques de commerce, pour ceux qui veulent faire de la sécurité et pour ceux qui s'occupent de l'URS et de l'UDPR. Alors, pourquoi les choses sont difficiles? Eh bien, le groupe Article 29 a dit à l'ICANN ce que l'ICANN doit faire. Mais ils n'ont pas donné beaucoup de détails par rapport à ce qui pourrait être fait. Et ensuite, vous avez les gouvernements, la communauté européenne ainsi que le GAC, qui ont peur que toutes ces informations ne soient pas aussi disponibles que précédemment. Et donc, ils demandent à l'ICANN et aux parties contractantes de laisser les choses aussi ouvertes que possible. Mais ensuite, ils disent, mais attention, il faut que vous soyez conformes au RGPD et aux lois en vigueur dans les différents pays. Mais ils ne nous disent pas comment faire et comment est-ce que ces différents intérêts peuvent être réconciliés. Et donc, nous, il faut absolument qu'on pousse nos représentants du GAC, et je crois qu'il a tout à fait raison, Yoran. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller embrasser vos représentants du GAC. Je préfère leur payer à boire. Hein. Mais ceci étant, vous devez les éduquer. Lorsqu'ils ont des demandes, qui sont basées sans doute sur les demandes des forces d'application de la loi, eh bien, ils doivent avoir une explication juridique qui puisse être utilisée par l'ICANN et par la communauté pour alimenter le livre de recettes. C'est ça qui nous manque. Donc, pour résumer, ce que nous avons vu avec le document de l'ICANN, c'est un grand progrès, mais il y a des trous, il y a des lacunes. Donc, il faut remplir tout ceci sur la base des points de vue de la communauté pour voir ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Et il faut aussi pousser les gouvernements à nous donner leur avis du point de vue juridique par rapport à ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Je ne sais pas si c'est le groupe article 29 qui peut le faire. Je pense que l'article 29, c'est les APD, donc c'est différent, ce n'est pas les gouvernements. Voilà, je fais une pause. J'ai parlé plus de 5 minutes. Merci pour votre patience. Tijani au micro. Merci beaucoup, Thomas. En fait, on aime bien quand vous parlez. C'est très intéressant, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer, mais malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Par contre, je vous invite à rester avec nous. Comme ça, pendant la discussion, vous pourrez nous éclairer un petit peu. En ce qui concerne le RGPD, les exigences sont très strictes sur la collecte des données, sur le stockage des données, sur le traitement des données, etc. Et sur la rétention des données également. En Europe, est-ce que vous avez un plan de mise en œuvre, un guide de mise en œuvre pour tous ces éléments du RGPD? Thomas au micro. Les grandes parties contractantes sont allées voir des avocats et ont essayé de voir comment mettre en œuvre un plan pour le 25 mai. Tout le monde espère que l'ICANN trouvera un modèle provisoire qui pourra être utilisé. Mais si l'ICANN n'arrive pas à trouver un modèle assez solide, eh bien, ces parties contractantes feront ce qu'elles doivent faire pour être en conformité. Il n'y a pas de vraie solution. Et la solution, c'est ce qu'a dit Savanet tout à l'heure, en partie. Je crois que les acteurs vont être conservateurs au début. Et petit à petit, lorsque les gouvernements et le groupe Article 29 nous diront un petit peu plus sur ce qui peut être fait, les choses seront un peu plus libérales. Mais nous pouvons leur poser des questions à ces APD. Nous espérons qu'elles répondront et malgré tout, je ne suis pas sûre qu'elles soient aussi directes qu'on le souhaite. Tijani, au micro. Oui, il y a la question de la protection des données en général. Ce n'est pas uniquement la question du WHOIS. Thomas, au micro. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'inconnus parce que le RGPD a plusieurs clauses qui sont ouvertes. On ne sait pas exactement comment est-ce que ceci sera interprété par les APD et par les ordonnances dans les tribunaux, mais il y a beaucoup d'avocats qui aident les sociétés à être conformes avec les données des consommateurs, les données des employés, et également pour s'assurer que les systèmes externes sont conformes. Tijani au micro. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Fezzana, qui est la personne qui a proposé ce sujet pour l'espace Moyen-Orient et qui est également notre secrétaire pour la déclaration. Donc, je vais lui donner la parole. Fezzana au micro. Merci, Tijani. Alors, j'avais suggéré ce sujet et j'ai eu l'approbation de la liste de diffusion parce que non seulement on en parle actuellement dans la communauté, mais c'est également quelque chose qui a un impact sur la protection de la vie privée des titulaires de noms de domaine au Moyen-Orient. C'est vraiment un sujet important et notre communauté au Moyen-Orient doit en parler. Et il faut aller au-delà de la conformité au RGPD. Parce qu'il faut que la question de l'anonymisation des données et du WHOIS, la protection des données dans le WHOIS, soit abordée. Alors, nous avons une loi, du coup, cette discussion refait surface. Nous avons maintenant l'opportunité de faire des commentaires sur le modèle proposé par l'ICANN, mais je souhaite également mettre l'accent sur le fait qu'il faut qu'il y ait un modèle international qui ne soit pas limité à l'Europe. Alors, nous avons un peu de retard, donc je ne vais pas passer en détail dans tout, partout la déclaration. Il y a des commentaires sur ce document qui ont été fournis. Alors, il y a une chose, il faut absolument que cette déclaration soit envoyée rapidement parce que l'ICANN a besoin de commentaires assez rapidement. Donc, nous devons travailler sur cette déclaration en quelques jours. Donc, voilà. Maintenant, je passe la parole. Tijani au micro. Merci beaucoup. Rafik a énormément contribué à cette déclaration, donc on va lui demander de le lire. Rafik au micro. Merci. Nous, les membres de la communauté du Moyen-Orient, participons à la réunion de l'ICANN 61, la réunion publique qui se retrouve à San Juan au Porto Rico. Nous participons à la séance de l'espace du Moyen-Orient en ce 12 mars 2018 pour discuter de la conformité du WHOIS au RGPD. Les titulaires de noms de domaine et la question de la protection des droits privés dans le WHOIS, surtout au Moyen-Orient, n'a pas été suffisamment étudiée à l'ICANN. Nous sommes heureux que cette nouvelle loi, le RGPD, attire l'attention sur cette question très importante. Nous croyons que l'objectif du WHOIS doit être aligné avec la mission de l'ICANN et le reste. Cela veut dire que si l'accès aux données du WHOIS doit être pris en considération, la collecte des données dans le WHOIS doit être minimisée pour accomplir les objectifs limités et bien définis conformes à la mission de l'ICANN. Le RGPD a des implications au niveau international et n'a pas uniquement un impact sur l'Europe. Il a ouvert la porte vers une meilleure protection des données et peut aider la communauté de l'ICANN à trouver de meilleurs moyens de protéger les données des titulaires de noms de domaine et également fournir un accès à ces données conformément à la mission de l'ICANN. Donc, notre communauté suit avec attention les discussions relatives au RGPD au sein de la communauté de l'ICANN et soutient un modèle de conformité qui est une approche internationale et en même temps ne soit pas uniquement restreinte à l'Europe. L'ICANN a fourni 3 modèles intérimaires pour la conformité au WHOIS avec le RGPD. Et actuellement, il existe un autre modèle intérimaire qui a été soumis pour le point de vue de la communauté. Il existe des préoccupations par rapport à ce modèle. Tous les modèles suggérés permettent toujours la collecte de données dans une mesure maximale et le WHOIS détaillé est préservé. Ceci soulève des préoccupations parce que les modèles ne sont pas nécessairement conformes au RGPD. Ils semblent ne pas être conformes au principe de minimisation des données et ils peuvent être en infraction avec la protection des données privées. Si ce document décrivant le modèle fournit sa propre interprétation des objectifs de service du WHOIS, les objectifs existants légitimes sont toujours en cours de discussion et doivent être définis par la communauté et la définition des intentions doit être justifiée. Nous souhaitons que l'organisation ICANN, la communauté ICANN également, prennent en compte les questions suivantes dans le cadre de l'élaboration de politiques ou de la mise en application de modèles pour la conformité du WHOIS au RGPD. Premièrement, le modèle à plusieurs niveaux suggérés par l'ICANN qui permettent accès aux données ne doit pas rentrer dans le détail par rapport à la certification. Nous sommes très préoccupés comme un des modèles suggérés, que l'un des modèles suggérés puisse évoluer du statut provisoire au statut permanent. Et les préoccupations soulevées par la communauté ne seront à ce moment-là pas vraiment traitées. Nous sommes donc du point de vue que tout modèle de certification doit être formulé dans le cadre d'une consultation avec la communauté. Deux. Les données qui sont disponibles de manière publique dans le WHOIS pour les personnes du Moyen-Orient peuvent créer certains enjeux et avoir des conséquences dévastatrices sur les titulaires. Ceci nécessite une attention particulière et un travail de consultation sur de meilleurs mécanismes de protection des données. La prise de conscience par rapport aux services d'enregistrement et aux services d'anonymisation et d'enregistrement fiduciaire n'est pas très élevée dans le Moyen-Orient. Dans certains pays, il s'agit de 10% au total. Ceci illustre le fait que les titulaires de noms de domaine connaissent pas ces services ou ne savent pas que leurs informations seront publiées publiquement. Donc, nous demandons à l'organisation ICANN et à la communauté ICANN de prendre en considération ces préoccupations dans le cadre de leur discussion de cet accès sur plusieurs niveaux. Les données du WHOIS détaillées dans le modèle récemment fourni sont partagées avec des parties tierces sans justification claire. Ceci accroît le risque que les données soient utilisées pour des objectifs différents de ceux définis lors de la collecte. Quatrièmement, les titulaires de noms de domaine IDN et ceux qui n'utilisent pas l'alphabet latin pensent qu'il est très important de considérer l'impact de la mise en œuvre de cette translation et translittération des informations, des données privées des titulaires de noms de domaine. Ceci est important dans le contexte du Moyen-Orient. Étant donné les nombreuses langues, l'alphabet arabe et les IDN. Nous avons donc différentes langues, arabe, farsi, ourdou, etc. Nous souhaitons souligner le fait que nos préoccupations par rapport à la protection des données vont au-delà de la conformité de la CAN avec le RGPD en ce qui concerne les données du WHOIS. Nous souhaitons que les services soient dans l'esprit de la préservation des données des titulaires tout en réduisant la collecte des données au minimum requis pour l'objectif défini, le stockage des données dans un seul endroit et la restriction de l'accès public. Nous vous remercions par avance d'avoir pris en considération les questions que nous avons soulevées en ce qui concerne la protection des données privées.
Tijani, au micro. Merci pour cette présentation. Y a-t-il un commentaire sur la déclaration? C'est la personne qui l'a lu qui va le faire. Donc, nouvel intervenant, il y a un commentaire que nous devons faire parce que ce que nous avons rédigé cette déclaration, nous étions entre deux phases. Nous n'avions pas encore toutes les informations. Donc, nous devons garder à l'esprit que si nous devons faire des changements, il pourrait se faire puisque nous avions un problème de temps. Tijani, merci. Ce modèle est une évolution intéressante par rapport aux quatre premiers modèles qui avaient été proposés. Modèle 1, 2A, 2B et modèle 3. À tous les niveaux, c'est une bonne évolution, mais nous avons encore des problèmes. Je ne vais pas commencer par donner mon opinion, mais je vais demander à ce qu'il y ait une discussion sur cette déclaration. Qui veut commencer? Abdemena, pour au micro. Au niveau de la déclaration, dans le paragraphe numéro 3, si je vous comprends bien, vous voulez dire en disant who is détaillé, vous parlez du registre détaillé. C'est vrai, la plupart... en Afrique, nous avons des registres détaillés, pas des WIS détaillés. Comment est-ce que vous contrôlez cela? Tijani, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un WIS détaillé. Alors, nouvel intervenant, le modèle détaillé, le registre détaillé, il y a une différence avec le WIS détaillé. Non, c'est pas ça. Tijani, voilà. Il s'agit du contenu des données et le montant des données. À un certain moment, dans la CAN, comme je vous l'ai dit, nous avons discuté de ce sujet. Nous en parlons depuis le début de la CAN. Nous essayons de trouver un consensus dans la communauté. Nous n'avons jamais pu le faire parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les intérêts sont très différents. Et il y a, encore une fois, des intérêts très différents, très puissants des deux côtés. À un certain moment, nous avons eu une petite évolution dans ce sens. Nous avons pu définir deux genres de WIS, le WIS détaillé et l'autre WIS. Le WIS résumé, c'était un montant de données plus restreint. À ce moment-là, on se disait qu'on enverrait au registre les WIS résumés. Et maintenant, on a décidé de donner les WIS détaillés au registre. Et pour moi, c'est là où il y a un problème. Je n'ai que deux mains. Alors, attention. Nadira, au micro. Il y a certains points sur les registres et les données. Les données qui sont collectées par les CTTLD dans les régions et dans certaines régions, ces CTTLD sont enregistrées avec au niveau national. Par exemple, .ps, c'est ouvert au monde entier. Donc, certains des CCTLD ne seront pas conformes ou ne seront pas affectés, disons, parce qu'il n'y a pas de registre européen à leur niveau local. Donc, je ne sais pas comment on peut considérer cette partie de la déclaration. Tijani, au micro. Quand il s'agit des CCTLD, nous n'aurons pas de problème. Pas tous les CCTLD, disons. Dans nos pays, au moins, les CCTLD sont, et leurs utilisateurs sont des entreprises. Donc, si vous êtes au service d'Européens, si vous êtes en Europe, vous devez être conforme au RGPD. S'il y a des utilisateurs de .ps, par exemple, en Europe, là, vous devrez être conforme avec le RGPD. Nouvelle intervenante. Oui, je comprends, mais donnez des détails. Nouvelle intervenante. On ne parle pas des CCTLD ici parce qu'ils ont leur propre politique, ils sont sujets à leur propre loi locale. Ils n'ont pas de contrat avec l'ICANN, donc cela ne s'applique pas. Il n'y aura pas d'effet sur eux, il n'y aura pas d'impact sur eux. Tijani, micro. Adia, au micro. Je voudrais aller vers le paragraphe numéro 4 qui parle. L'ICANN a fourni trois modèles intérim. Je voudrais clarifier quelque chose. Deux points à mon idée. C'est peut-être pas l'opinion de tout le monde, mais moi, je vois les choses comme ça. C'est comme ça que je les comprends. Si nous allons donc au paragraphe numéro 4, encore une fois, la quatrième ligne du paragraphe, la cinquième ligne du paragraphe, cela pose des inquiétudes parce que le modèle ne sera pas forcément conforme au GDPR, au RGPD. Ils ne suivent pas les principes de la minimisation des data, des données. Cette phrase est là, mais elle n'est pas conforme. Quand on parle de la conformité vis-à-vis de la minimisation des données, vous savez, c'est lié à la collecte des données avec pour but de collecter les données. Donc, ce document fournit un but pour la collecte, mais ce qui manque, c'est la logique, ou du moins le lien entre le but et les informations requises. Si cette rationale est là, peut-être que cette phrase ne devrait pas être ici. Donc, je pense que le modèle qui est présenté manque un lien, une rationnelle entre la collecte des données et le but de la collecte de ces données. Et ensuite, j'ai une deuxième chose à mentionner. La phrase qui dit « elle pourrait être en violation par rapport à la confidentialité des titulaires de domaine ». Si je comprends bien cette partie du paragraphe, il pourrait donc être en violation parce que, une fois encore, l'interprétation de la mise en œuvre de l'équilibre entre les intérêts légitimes et les droits des données n'est pas encore en place. Donc, une fois que l'interprétation de la mise en œuvre sera faite, nous n'aurons peut-être pas de problème de violation de confidentialité des titulaires. Tijani, au micro, comme Tariq l'a dit, nous allons changer cette déclaration parce que nous avons de nouveaux éléments à apporter. Donc, j'aimerais pouvoir discuter des principes, des idées, et pas forcément du contenu précis, parce qu'il y aura des changements. Logiquement, ça va changer. Donc, je demande à l'équipe de rédaction de revenir sur cette déclaration après cette réunion et de la mettre à jour par rapport à ce qui a été discuté autour de la table. Hadia, au micro. J'ai déjà commenté sur le document et quand on parle de la minimisation des données, d'ailleurs, c'est vous qui en avez parlé de cela. Bien sûr, le modèle ICANN doit appliquer ses principes, comme ça a été déclaré. Ça a été déclaré pas par moi, mais par les avocats en Europe. Et aussi Temas, comme il l'a mentionné tout à l'heure, il va peut-être y avoir des problèmes de violation parce qu'il n'y a pas de minimisation de données. Et quand je parlais à John Jeffrey, qui est là d'ailleurs, et que je lui ai demandé si les données qu'ils allaient collecter seraient en conformité, il m'a dit, on n'a jamais dit que ce serait conforme. Donc, vous voulez nous en parler d'ailleurs? Nouvel intervenant, je ne sais pas si j'ai bien dit ça, mais ce qu'on voulait dire, c'est que nous faisons des tests sur la conformité par rapport au RGPD. Le livre de recettes que nous avons mis à jour vous fournira. Je pense qu'il était là tout à l'heure. On peut vous le renvoyer. Il y a en attachement les spécifications pour chacun des éléments. Il peut y avoir plus de détails sur ce qu'a dit Thomas. C'est la première version préliminaire de ce livre de recettes, si on peut dire. On vous donnera plus d'informations. Nous avons collecté beaucoup d'informations sur les éléments de données individuelles. Et si beaucoup de groupes différents en parlent... D'ailleurs, je suis désolée, je suis arrivée trop tard dans cette réunion, mais j'ai entendu un petit peu... j'ai entendu les conversations. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est un petit peu... tôt pour faire une analyse. Beaucoup de groupes dans la communauté nous fournissent encore des informations pour que nous puissions les mettre dans ce livre de cuisine et faire une analyse formelle. Et cela, nous le fournirons à la fin du processus. Nous avons soumis un modèle intérim et un livre de recettes pour l'APD. les APD donc peuvent nous aider à contribuer, peuvent contribuer pour nous aider. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'adresses, beaucoup d'informations que nous allons apporter. Nous allons voir si cela peut être inclus, que ce soit un modèle d'accréditation, que ce soit après l'accréditation de ce modèle, etc. Tijani, merci John Jeffrey. Je voudrais donc recadrer ce débat. Qui a lu le RGPD? Qui a lu quelques parties du RGPD? Bon, c'est très bien. Le RGPD concerne les données personnelles. Donc, tout ce qui a à faire avec les données personnelles se trouve dans le RGPD. La collecte des données, le stockage et la rétention et la gestion. Donc, pour collecter les données, vous devez avoir un but. Vous ne pouvez pas collecter des données plus que vous en avez, ce dont vous avez besoin pour vos buts. Donc, il faut définir le but. Et c'est un problème pour moi parce que on aurait dû commencer par définir ce but. Il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est déjà dans les statuts ». Je n'en sais rien, mais je ne comprends pas ça. Nous avons besoin d'un but pour la collecte des données. Et ensuite, lorsque les données sont collectées, d'ailleurs même avant, il faut qu'il y ait un consentement de la part du titulaire des données. Si vous n'avez pas ce consentement, vous ne pouvez pas collecter les données. Quand il s'agit du traitement des données, cela est très détaillé. Vous ne pouvez pas traiter les données des personnes s'ils ne l'acceptent pas. Donc, ils disent que si le but de la collecte de ces données n'est pas valide, vous ne pourrez pas utiliser ces données. Il ne vous est pas permis de les utiliser. Quand il s'agit de la rétention, je pense qu'il s'agit de 2 ans. Nous ne pouvons pas utiliser cette donnée. Nouvelle intervenant. Regardez les détails du livre de recettes. Nous avons essayé de fournir des justifications pour tous ces éléments. Et nous avons demandé aux APD de nous donner des informations sur les buts donc de cette collecte de données. Thomas Ricketts au micro. Je pense que nous pouvons passer à l'Adobe. D'ailleurs, non. Tout d'abord, si vous voulez, vous pouvez utiliser les livres de recettes de l'APD. Vous pouvez regarder les paragraphes 5 et 6 qui parlent du traitement des données et ça explique toutes les bases juridiques. Vous avez donc un catalogue juridique qui concerne le consentement. Vous pouvez traiter les données si vous avez le consentement de l'utilisateur, mais ça doit être un consentement informé et ce consentement peut être retiré à n'importe quand. Alors c'est 6.1a et vous avez ensuite le traitement des données. Il y a la performance de contrat. Si vous utilisez les données, vous n'avez pas besoin du consentement. Si vous allez en ligne pour acheter un livre, par exemple, et que vous commentez un livre, forcément, la personne a besoin d'un nom ou une adresse pour envoyer le livre. Donc, le but de l'envoi de ce livre est logique. Donc, après ça, vous savez, il y a des lois qui permettent de garder les factures pour cette vente. Mais, par exemple, il y a des limites dans les données qui peuvent être conservées. Si les forces de l'homme me demandent des informations, alors là, en tant que vendeur, je peux faire passer ces informations et ces données. Ensuite, nous avons des sujets de données qui sont pas forcément, de traitement de données qui sont pas forcément importants. Mais il y a du traitement de données qui sont basées sur les droits légitimes. Et c'est de ça que l'on parle ici. Chaque étape de traitement, que ce soit la collection, la collecte, le transfert, les modifications, toutes ces activités de traitement sont concernées. Donc vous avez besoin d'un but plus une initiative juridique pour dans chaque étape du traitement. Il faut passer à travers donc tout cet exercice et voir ce que doit faire un titulaire pour enregistrer son nom de domaine. Si vous avez besoin de ces données pour enregistrer un titre de domaine, cela est couvert dans le contrat. Vous avez une obligation juridique et vous avez un but, puisque vous avez enregistré le domaine, donc vous pouvez... Mais bon... Les données n'ont pas forcément à être publiées dans le WIS. Donc ça ne sera peut-être pas vraiment couvert, mais il pourrait y avoir des intérêts par rapport aux forces de l'ordre pour pouvoir publier ces données. Et ça pourrait être un intérêt légitime. Donc, mais il faut équilibrer tout cela avec les personnes intéressées. Donc ça, c'est le défi le plus compliqué et c'est là qu'on a besoin des APD et des gouvernements. Je suis désolée si ça prend beaucoup de temps, mais ce sont des mécanismes de base à travers lesquels avec lesquels vous devez travailler. Je recommande d'aller voir l'article 5 et 6. Tijani, merci Thomas. Jean-Jeffrey, au micro, vous devez lire les détails sur ce qu'on présente sur ce modèle. Cela fournit des informations sur l'utilisation des données. Par exemple, lorsque nous avons commencé à discuter avec les APD, certains membres de la communauté disaient que l'ICANN aurait toutes ces informations et que l'ICANN aurait le contrôle. ICANN n'utilise ces données que pour des utilisations très limitées. Par exemple, quand il s'agit de la rétention des données ou le transport de l'enregistrement entre les registres et entre les opérateurs et les distributeurs de registres, ils utilisent toutes ces données pour les contrats. Donc, l'utilisation légitime, c'est vraiment un défi. Ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas assumer seulement sur la loi, basé sur la loi ou sur ce que les autres personnes vont vous expliquer, mais il faut aussi faire référence à toutes les lois spécifiques qui sont alignées avec cette thématique. Nous pouvons vous fournir plus d'informations. Nous allons essayer d'améliorer les informations. Il y a beaucoup de travail à faire. Tijani, au micro. Nous n'avons plus assez de temps. S'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent prendre la parole, je voudrais dire quelques mots au sujet de ce modèle en question. Collecter le WHOIS détaillé et le stocker à quatre endroits. Les titulaires, l'opérateur, le distributeur et l'agent escroc et l'ICANN. Et après, on dit que ce n'est pas public. Le lien est très facile à faire. Nouvel intervenant, oui, ICANN, vous savez, ce n'est pas vrai. ICANN ne stocke pas les données. Tijani, bon, ça, ce n'est pas le problème. Donc, trois endroits. Je ne comprends pas pourquoi nous collectons autant de données. Alors que nous avons déjà, comme nous le faisons dans le WHOIS détaillé. Et pourquoi nous avons à faire passer toutes ces données à toutes les étapes? C'est la minimisation des données. Et je ne vois pas cela. Je ne vois pas cela. Ça ne va pas marcher si on continue à faire les choses de la même manière. Il y a un autre point, c'est l'auto-accréditation. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, pourrait être accepté. Il ne pourrait pas être accepté parce que là, tout serait public. Ce serait très facile de faire cela soi-même pour accéder aux données. Donc, le modèle ou le processus d'accréditation est en cours et je pense que c'est un point très controversé au sein de cette discussion. Nouvel intervenant. Oui, l'auto-accréditation et le modèle ICANN est d'accord avec vous. Nous ne sommes pas d'accord. Il ne devrait pas avoir un modèle d'auto-accréditation. Il faudrait que ce soit plus formalisé pour que nous puissions mettre en place un code de conduite, un ensemble de réglementations pour que les personnes aient accès au WHOIS qui n'est pas publié. Il devrait y avoir des exigences qui soient mises en place pour que nous puissions être conformes aux différentes lois. Tijani, merci. Jean-Jeffrey, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, nouvel intervenant. En ce qui s'agit de l'accréditation, je ne sais pas si nous voulons faire une mise à jour dans ce sens, mais à mon avis, lorsqu'il s'agit d'accréditation, je pense que GAC pourrait être responsable pour communiquer avec les forces de l'ordre, les agences et forces de l'ordre, mais pour être honnête, mais pas pour d'autres sujets. Oui, je fais un compromis ici, parce que comme je vous l'ai déjà dit, certains gouvernements et certaines agences des forces de l'ordre ne protègent pas forcément leurs citoyens. Je ne vais pas mettre ça dans la déclaration parce que nous n'aurons pas de consensus dans ce sens-là. Mais c'est un compromis que nous... Donc, encore une fois, nous devrions mettre ça dans la déclaration. Il faut qu'il y ait consultation avec la communauté. Tijani au micro, oui. Le forum public va commencer maintenant. Nous devons donc fermer cette séance. Je vais passer la parole à Christine. Christine au micro, oui. Je pensais que nous pourrions discuter plus à propos de ces déclarations. Mais en attendant, le point numéro 4 devrait être reconsidéré. Je ne comprends pas vraiment comment on peut parler de la traduction et la translittération. Je ne vois pas ce que ça a à faire avec la confidentialité. Tijani, je vous invite tous à intégrer la rédaction de la déclaration parce que tout cela va être refait. Christine, venez nous aider pour le faire. Je voudrais vous remercier tous pour cette discussion intéressante. Je voudrais surtout remercier Thomas Ricketts, John Jeffrey et Teresa qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de la séance. Je vous remercie d'avoir passé du temps avec nous et j'espère que cette séance vous a aidé à mieux comprendre ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, personnellement. On verra bien. C'est très difficile. Merci à tous. La séance est donc fermée. Merci.